vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Épisode numéro 136. Béatrice Viard-Rossignol, le maillon fort. Chers amis, bonjour. À quoi peut-on dédier sa vie ? Aux ordres ? À l'amour ? À ses enfants, sauf quand ils sont grands ? À Dieu, s'il reste au ciel et nous fout la paix sur terre ? Au tricot ou au macramé, sans ironie et sans ricaner ? À quoi peut-on dédier sa vie ? À tout et à rien, parce que rien, c'est simplement beau, et tout, parce que cela change souvent. Eh bien, notre invitée aujourd'hui, elle a dédié sa vie à la culture. Bonjour Béatrice Viard-Rossignol.
Bonjour Ambroise Perrin.
Alors, un peu comme Obélix, vous êtes tombée dans la marmite de la culture toute petite.
Je ne peux même pas dire ça. Non. Ça s'est tricoté petit à petit, comme une évidence et comme une chance.
Comme une chance. Alors, à Strasbourg, on vous connaît beaucoup comme un super électron libre au maillon. Et quand je dis le maillon, c'est le maillon de Haute-Pierre.
Hein.
C'est,
oui, bien hein, sûr.
C'est celui de Haute-Pierre. Ça a été une sacrée aventure.
Magnifique. Et avec des directions tellement différentes. Bernard Génie, pour commencer, que les anciens connaissent, parce qu'il a fait à peu près venir tout.
Tout le monde.
Tout ce qui existe.
Haute-Pierre était la capitale de la culture.
Certes. Et par ailleurs, lui venait de Paris, puisqu'il dirigeait le Vieux Colombier, et que c'est son ami Germain Muller qui lui a proposé de s'installer dans un théâtre en plein dans un quartier considéré comme, à l'époque, tout à fait neuf.
Alors, quand on dit à l'époque, c'est les années 80.
On parle des années même un peu avant.
Un peu avant.
Parce que je crois me rappeler que Pierre Flimelin était extrêmement fier, et il faut se remettre à sa place et à l'époque, d'inaugurer cet immense quartier qui a abrité de nombreux, nombreux arrivants.
Mmh. Alors, vous avez cité Germain Muller, Bernard Génie, il y avait André Rodiguero aussi, Claudine Gironès. C'est de la nostalgie, tout ça. Hein.
Oui. Oui, mais bon, je ne suis pas une très grande pratiquante,
non,
je crois que...
Parce que là, on s'adresse un petit peu aux anciens auditeurs de Radio Judaïca Strasbourg.
Oui, m'en parle beaucoup de l'époque.
Ils ont tous fait des carrières formidables. Alors, André Rodiguero, il est passé à Pôle Sud, enfin, ça
alors,
s'appelait MJC de la
voilà,
Méno.
MJC de la Méno,
oui.
Et un homme, bon, un communicant hors pair. Comme il y en a un autre qui s'appelle Jean-Marc Nigon aujourd'hui. Mmh. Et par exemple, le créateur d'un des logos du TNS, entre parenthèses, et également le communicant de la ville de Strasbourg pendant la période Roland Ris.
Oui. Alors, je parlais de la nostalgie.
Oui.
Bon, il y a bientôt des élections, donc on ne va pas rentrer sur ce terrain où on dit que c'était mieux avant.
Oui.
Mais vous, donc, vous n'êtes pas tombé dans la marmite, donc vous êtes un peu plus... je ne sais pas, Abracourcix ou autre chose, ou Astérix. C'est vos parents qui étaient dans la culture ?
Pas du tout.
Non ?
Mon père était un fonctionnaire international, il habitait la Suisse. Il était un traducteur, entre parenthèses, il parlait une dizaine de langues, ce qui n'est pas mon cas. Mais dont semblent avoir hérité mes enfants, mes petits-enfants, une facilité à apprendre les langues. Et ma mère était, comme on dit,
femme au foyer,
alsacienne.
Et vous aviez un grand-père qui avait une épicerie,
oui,
en face du crocodile ou à côté du crocodile.
Alors ça, c'était l'oncle.
Ah, c'est l'oncle.
C'était l'oncle.
Bah alors ça, c'est une histoire géniale.
Ah bon, oui, c'est le frère de mon grand-père. Et mon grand-père, c'était 15 rue Oberlin, à l'angle, avec l'appartement assorti un peu plus loin. Et à l'époque, les épiciers dits d'épicerie fine apprenaient leur métier à Paris. Ah. C'était sérieux.
À la moutarde, c'était à Paris, ouais. avant de ramener le réfort en Alsace.
Ouais.
Mais alors, non, parce que moi, c'est à côté du crocodile, vous étiez...
Je
fais pas de la pub, hein, même si j'ai pas un abonnement au resto.
Ouais.
Mais vous alliez voir votre oncle et après, vous alliez un peu voir dans les cuisines, vous rentriez par l'arrière-salle
pour
goûter à la sauce de M. Young.
D'abord, c'était en face et pas à côté. Je crois que là, il y avait la maison de Marie-Claire et tout ça. C'était une très, très grande épicerie. Et lorsque nous sommes revenus du Maroc, mon grand-père m'a vraiment appris à apprécier fruits et légumes. Je suis extrêmement difficile, pour les pommes en particulier.
Ah bon, alors, puisque vous êtes extrêmement délicate et donc gastronome, quelle est votre meilleure façon de faire la tarte au fromage ? C'est notre émission.
Disons qu'il ne faut pas y aller avec l'économie.
Ah.
Là, je recopie pas à pas, si je peux dire, la recette de ma cousine Isabelle. Et c'est jamais raté. Mais je ne vous le dirai pas parce que c'est un secret de famille.
Ah, c'est un secret. Beaucoup de crème quand même.
Oui,
bien sûr.
Il veut quand même savoir. Non.
Non. Non. Alors, on va passer à autre chose, puisque là, vous ne faites plus dans l'épicerie. Votre lien entre les artistes et le public, parce que vous étiez, alors j'ai dit électron libre, mais on dit, mais c'est honorifique, vous étiez attaché de presse, hein, c'est ça.
Disons que je me suis rendu compte, surtout à la fin de ma carrière, qu'en réalité, j'étais exactement à la place que j'aimais. C'est-à-dire que sur ce ruban, il y a d'abord les artistes. C'est indispensable. Un artiste, quand c'est un plasticien, ou des artistes, quand ils travaillent ensemble dans le théâtre. Et au bout de cette chaîne, il faut un lien entre ce qui est fait d'un point de vue artistique et le public. Et bien voilà, j'étais à cette petite place-là qui permet que cette chaîne soit continue. Et c'est la place où je me suis sentie heureuse et peut-être utile.
Oui, oui, non, mais bien sûr. Extrêmement utile, parce que moi j'ai des souvenirs. Je me souviens d'un spectacle de Raymond Devos au Maillon. C'était formidable. Et puis alors... Après, on allait le rencontrer dans les coulisses. Lui, il revenait dans la salle.
Oui.
C'était bon. Et là, effectivement, des gens comme vous avaient un rôle très important de mettre les gens en contact.
Vous savez, c'est un petit rôle, mais il est en effet important. Puis, j'ai aucun problème pour en voir la modestie et l'utilité.
Oui. Les grandes dames sont souvent... ils savent jouer la modestie. Alors,
Non, mais vous voyez, par exemple, je me rappelle Bernard Genis qui revient et qui dit « Oh là là, j'ai vu un spectacle. Il y a un gars, il chante avec la petite valise. » Il était très finaud. Je ne sais pas exactement, mais je l'ai senti très bien, ce type-là.
C'était Rufus ?
Non.
Non.
Alors, il me dit « Ben voilà, maintenant tu me remplis la salle. » C'était ça le truc. Hein.
Ah bon. Oui.
Et... je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Bon, je cherche un disque de ce gars-là, je vous dirai après qui c'est. Et je suis allée aux Aviateurs. Et j'ai demandé à mes amis, Michel et Michel, les Moretti, est-ce que vous pouvez me passer ce disque, mais alors d'une manière obsessionnelle ? Parce qu'il faut que je remplisse la salle, et sinon, on va me taper sur les doigts. Eh bien, c'était Paolo Conte.
Alors là,
parce qu'il se l'a... il ne se la ramène pas, oui. Mais qu'est-ce que c'est ?
Est-ce que vous saviez que les Aviateurs, avant les Aviates, c'était le siège de l'Ufolaïs ?
Mais bien sûr que je le sais.
La cinémathèque pour tous les lycées, tous les ciné-clubs, on en a parlé la semaine dernière.
J'habitais rue des Vaux, donc voilà. Pas loin.
Encore une anecdote par rapport à Raymond Devos et au Maillon. Donc moi j'étais modeste mais génial journaliste à FR3 Alsace et donc on va faire une interview avant le spectacle parce que c'était pas complet Et donc l'attaché de presse, ça devait être vous. Hein. Vous m'aviez dit, est-ce que, ben voilà, venez faire une interview. Donc on fait une interview, et comme il joue deux ou trois jours de suite, ça va remplir le lendemain, le surlendemain et tout. On fait l'interview, et ça marche pas, il se plante et tout. Et le preneur de son, qui était une preneuse de son, je me souviens. Hein. Et bon, donc on
recommence. C'était pas trop son truc, hein.
Non, il était pas bon, et donc on lui disait, ben est-ce qu'on peut recommencer,
ouais.
Voilà.
Ouais.
Eh ben,
pas pour tout, hein.
La classe, il est allé acheter des fleurs et il les a fait livrer à la preneuse de son.
Délicieux.
Pour s'excuser.
Délicieux.
C'est chouette.
Bah,
c'est
et moi, je le voyais préparer. Vous savez comment il se préparait? Il jonglait, il faisait du jonglage.
Ah oui.
Avant.
Avec des mots ou avec des balles?
Non, c'était avec des balles. Mais ça raconte quand même des choses. C'est comme Michel Bouquet. Lui, il se préparait. Il restait une heure dans la salle. Et il se mettait à toutes les places. J'avais vu Yves Montand faire ça dans un autre contexte.
Oui, ou Barbara aussi.
Voir d'où, comment on entend, de là. Mmh. Et Michel Bouquet, dans Le Roi se meurt, ben, on le voit cligner de l'œil. Alors qu'il est au fond du plateau, vous voyez, c'est ça, le truc.
C'est bon. Alors, est-ce que vous, donc tous les soirs vous êtes au Maillon, mais il y a des jours de relâche, est-ce que vous en profitiez pour aller voir les autres spectacles?
Oui, et j'allais aussi...
Vous êtes une exception, hein, parce que souvent...
Mais on aime ça ou on n'aime pas. Hein.
Ouais, il y a des gens, les grands, je connais des acteurs, ils ne vont jamais au théâtre.
Ah, mais les acteurs, c'est autre chose.
Ah.
Les acteurs, ils sont dans une forme de rivalité... De mal à l'aise. J'ai vécu avec un comédien, donc j'ai bien vu que c'était comme ça. Il faut leur laisser cette possibilité. Mais en effet, les comédiens ne vont pas souvent au spectacle. Et je vais vous dire aussi, parce que j'avais un mal fou avec ce groupe-là, les amateurs non plus, alors qu'ils en auraient bien besoin.
Ah ben oui. Oui, allez
les
voir
comédiens,
les autres.
amateurs, mais évidemment, il faut y aller. Faut
comme
y
les
aller.
Gens qui écrivent de la poésie et qui n'en lisent jamais.
Hein.
Oui. Voilà. Alors, il n'y a pas eu que le Maillon.
Non.
Non, hein, il y a eu la laiterie, hein, un moment.
Oui, parce qu'à un moment donné, la directrice s'est défaite de l'ensemble de son personnel, et moi avec visiblement certains regrets, mais comme tous les autres étaient... Nous n'avons pas été renvoyés, nous avons été
déplacés.
Moi j'étais toujours employée par la ville, donc l'adjoint de l'époque m'a laissé choisir entre la direction de la communication des musées ou... aller travailler à la laiterie, mais la laiterie du temps de Jean Hurstel. Et je
les frontières.
Voilà, je lui ai dit que ça m'amuserait beaucoup plus, évidemment, puisqu'il y avait tout à faire. Il n'avait aucun sens de la communication, ni de comment trouver la pépette.
Qui fait venir le public.
Bah, bien sûr,
oui.
Évidemment.
Alors, autre point dans votre carrière, c'est la boutique Culture en face de la cathédrale de Strasbourg, dans les locaux de cette vieille et magnifique pharmacie.
Mais oui, et puis entre les deux, je me suis retrouvée quelques mois sans travail, mais en étant payée, ce qui pour moi est la honte suprême. Moi j'ai élevé mes enfants comme ça, hein. On gagne des sous mais on travaille. Faites n'importe quoi, mais vous travaillez. Et là, j'avais tellement honte que ben, je me suis acheté un ordinateur, puis j'ai commencé à écrire. Et puis j'ai comme une petite histoire, une autre et tout. Puis comme je vivais avec un comédien, il se trouve que ça a donné un petit spectacle. Donc,
c'est formidable, ça,
à
oui.
toute difficulté, à tout malheur, on découvre des choses. Voilà. Et donc, La boutique culture. On avait déjà l'idée, imaginez-vous, du temps de Bernard Génie, de trouver un endroit central pour diffuser la culture et diffuser ce qui s'y faisait. Et là, en l'occurrence, lui, il pensait à Maillon, mais après, ça s'est développé et on s'est dit, moi, l'idée que j'avais, c'est Strasbourg est une ville extrêmement culturelle, mais ça ne se sait pas. Donc, tu te donnes 3 ans et après, on sait que Strasbourg est une ville culturelle. Voilà, c'était ça l'idée.
Oui, mais c'était aussi pour les Strasbourgeois, parce que oui. Je me souviens que c'était un endroit formidable. Il y avait des fiches hebdomadaires
oui.
qui recensaient tous les spectacles, oui. mais pas seulement les gros trucs. C'était dans les petites salles, les concerts dans les églises. C'est formidable,
tout, c'était
ça.
Tout.
Ça...
Vous voyez, il y avait...
Pourquoi ça n'existe plus, ça ?
Ben, écoutez, je vais vous dire que ça me désole. Hein, j'en ai parlé aux gens qui s'occupent de ça maintenant. Mais bon, pas d'écho. Il se trouve qu'il y avait une jeune femme qui a une structure obsessionnelle. Moi, en tant que hystérique, obsessionnelle, ça va très bien ensemble. Et donc, elle avait ce don de travailler non-stop à fabriquer un calendrier de 8 heures à minuit. Et on affichait ça dans la vitrine, mais c'était très, très lu. Et
je... Oui. On venait même chercher les fiches.
Bien sûr.
On est à la maison, on regarde qu'est-ce qu'il y a ce soir. On avait le choix de 5 ou 6 spectacles différents.
Oui.
Dans des endroits improbables.
Oui, et tout sur le même plan.
Et ça, très bien pour les petites troupes. Hein.
Oui, nous interdisions, en tout cas pour moi, d'un point de vue purement moral... de faire le choix. Nous n'avons pas à choisir. Nous mettons sur le même plan un opéra et une petite lecture dans une association. C'est ça qui est important.
C'est formidable.
Et
ça.
Ce n'est plus le cas.
Et c'est vraiment dommage.
À ma grande tristesse.
Et c'est une question de moyens ou c'est un choix?
C'est un choix.
C'est un manque d'éthique.
J'ai eu beau discuter. J'ai dit, mais écoutez, vous avez quelqu'un qui travaille pour vous. Donc vous la payez pour ça et vous n'utilisez pas le travail. Réponse, oui, mais on externalise. Non, moi je ne peux pas entendre ça.
Ah oui.
Je ne peux pas entendre ça. On n'externalise pas quelque chose qu'on a sur place. Parce que d'abord, ça a un coût. Et ensuite, contrairement à ce qui se pratique, celui qui externalise, il met une chose en valeur plutôt qu'une autre. Eh bien non, c'est amoral.
Oui. Et on va mettre seulement les programmes du PMC ou des grandes salles. Voilà.
Ouais.
Et puis on vous dit, regardez sur Internet, vous trouvez tout. C'est-à-dire que vous passez 1h30 à trouver un spectacle qui dure une heure. Quoi.
Oui, tout à fait. Et puis par rapport à cet endroit, parce qu'avant d'atterrir là, m'a proposé la place Kléber et tout. J'ai dit, écoutez, là, ça fait 10 ans que cette ancienne pharmacie est vide. On ne peut pas. On est en face de la cathédrale. On est en face dans un lieu du 15e siècle. Est-ce que vous vous rendez compte les ondes qu'il y a là-dedans? Et je l'ai vérifié. Effectivement, je l'ai vérifié. Et c'était aussi un endroit qui soignait par les plantes depuis le Moyen-Âge. Nous, on soigne avec l'art.
Oui.
C'est pas mal comme relais.
Et pas loin, il y a le jardin qui est derrière le musée de l'œuvre Notre-Dame aussi, qui est plein de plantes du Moyen-Âge, médicinales.
Oui, c'est un trésor.
Oui.
C'est Hildegarde de Bingen qui a effectivement mis tout ça en valeur.
Et alors cette pharmacie, elle est devenue quoi? Après la boutique culture, c'est quoi maintenant? C'est un kebab? Non.
no comment. D'abord, je n'aime pas beaucoup l'amertume, de manière générale. Non pas parce que je suis particulièrement généreuse, mais c'est parce que c'est très mauvais pour la santé, l'amertume.
Voilà. Il y a l'amer picon aussi, mais...
Oui.
Mais en Alsace, en Bretagne, ils ont l'océan, nous on a la mer. Oui.
Nous on a la mer, il y a. Mais écoutez, voilà, déjà, d'accord, le 5, mais ça c'est quoi? C'est des gamins qui commencent dans la publicité, ils ont 25 ans, ils y connaissent rien, ils se disent 1, 2, 3, 4, 5, mais c'est d'une bêtise.
Ah, le truc qui est dans les WC, là.
Oh, mais c'est d'une bêtise. Déjà le titre.
Oui.
Ou alors on flèche par terre, enfin je sais pas quoi.
Bon
bref.
Bref, voilà, on aime bien aussi dire du mal parfois, mais ça fait du bien. Mais
disons, on avait 90 000 personnes quand même qui venaient dans l'année. 90 000 personnes.
Oui, c'est la moitié de Strasbourg, centre-ville.
Oui.
Alors, quand on dédie sa vie à la culture, hein, le début de notre émission sur Radio Judaïca Strasbourg, Béatrice Viard-Rossignol, on la partage ensuite.
Mais oui.
Et vous êtes allée dans les écoles.
Ah oui, oui, ça c'était formidable. Et j'avais eu cette idée, puis choisir autant un lycée un petit peu difficile, hein, c'est Pasteur, avec les jeunes gens qui venaient de Haute-Pierre. Et là, je me suis adjointe une amie très chère. Et on s'est amusé et je pense qu'on a fait des choses assez sympas. Et c'est Antoinette Flimelin. Antoinette a habité 20 ans.
La dame du sapin de Noël.
Oui, entre autres, mais c'est aussi une théâtreuse hein, à New York. Elle a fait du théâtre et de la déco. De la déco de Noël en particulier pour les New-Yorkais qui avaient les moyens. Et arrivant ici, je voyais bien qu'elle était désorientée. Et je me suis dit, tiens, profitons de son expertise. Donc, par exemple, on allait dans les classes et on avait trouvé un truc qui était plutôt plus malin que le contraire, c'est-à-dire faire travailler les élèves d'une manière ludique sur le spectacle qu'ils allaient voir. Parce qu'en général, on va les voir après, mais les préparer avant. C'est quand même nettement plus oui. amusant.
Oui, donc, pour le cinéma, les ciné-clubs, il y a le débat après le film.
Oui.
Vous faisiez le débat avant la pièce de théâtre.
Avant la pièce et où Antoinette, on avait trouvé un truc assez marrant, c'est-à-dire qu'on faisait par petits groupes des petits entraînements de théâtre et on demandait à ces 3-4 qui étaient là en alternance, de jouer le début de la pièce qu'ils allaient voir. Alors, inutile de dire qu'ils ramaient, mais ce qu'il y avait de formidable, c'est de comparer leurs efforts à l'évidence de ce qu'ils allaient voir. Ils ouvraient des yeux. Ah, c'est ça, être comédien.
Oui. Ouais. Ouais. Ah, c'est pas mal, ça.
L'idée n'est pas mal.
Oui. Ouais. Et les profs jouaient le jeu ?
Oui, et c'est ça. Je me suis dit, d'habitude, bon, quand on fait ça, on travaille avec les profs de français et de philo. Voilà. Mais là, je me suis baladée dans la salle des profs et puis j'ai parlé tout fort et j'ai dit, qu'est-ce qu'il veut venir au théâtre ? Qu'est-ce qu'il veut accompagner un groupe de temps en temps ? Je dis 5-6 fois par an, c'est pas... Et puis, il y a un prof d'allemand qui a dit oui, un prof de maths qui a dit oui. Non, mais c'est sympa aussi pour eux. Et puis, il y avait le hasard, il y avait la femme de Roland Ries,
oui.
Qui était prof de français.
Christiane.
Et alors, Christiane, justement, elle me disait, ah ben, je t'ai vu galoper hein, dans les escaliers. Mais c'est... Je ne sais pas comment dire, je pense qu'à un moment donné, il faut toujours finir par s'adresser à des personnes.
Est-ce que cette période n'existe plus ? Peut-être pour des raisons bureaucratiques, parce qu'on ne peut plus partir avec les élèves comme ça,
il y a une
histoire de responsabilité et tout.
C'est un peu plus compliqué, mais néanmoins, j'en vois quand même beaucoup au TNS, en groupe, et quand je les interroge, effectivement, ce sont des lycéens. Et pas forcément des lycéens dits groupes captifs, parce qu'on sait bien que si on va au lycée international, etc., etc., ça va être
c'est
plus
pas
facile.
Le même public.
Mais non, il faut y aller. On travaille, quoi.
Oui.
On travaille et on essaye de faire progresser le sujet, parce que sur un groupe de 30, il y en a peut-être 4-5 qui vont avoir une autre idée de ça, qui vont être curieux. Parce que aller vers la culture, c'est être plus intelligent.
Ouais.
C'est simple.
Oui, mais c'est quand même grâce aux profs. Moi, j'ai un souvenir. J'ai
bien
fait
sûr.
Ma scolarité à Haguenau. On
bien
avait
sûr.
Un prof.
Oui.
Il nous emmenait au TNS. Et dans sa 4L, on était à 9 dans la 4L, dans le coffre et tout. Aujourd'hui, il irait en prison.
Oui.
Et après le spectacle, on rentrait par derrière. On rencontrait les comédiens, on allait à la, la taverne, comment ça s'appelait le resto en face, la taverne française,
la
non
La taverne française.
Je crois que ça s'appelait.
Je ne sais pas, on fréquentait.
Ils nous payaient des coca, c'était absolument génial. On était en troisième, hein, ou même encore.
Ah, et c'est ensuite, formidable.
On dormait chez lui, sur la moquette. Et après, et le lendemain matin, il nous ramenait au lycée. Et les parents, aujourd'hui, ça serait plus
c'est
possible.
Impensable.
Est-ce que vous allez parfois au cinéma aussi ?
Oh ben oui.
Oui. Il n'y a pas de concurrence entre le théâtre et le cinéma.
Non.
Et ni entre la littérature. Et vous avez le temps quand même de faire.
Ben je trouve que je pourrais lire davantage. Bon là, je relis Simenon que j'adore.
Ah ben voilà.
Bah parce que ça, c'est une écriture sèche.
Vous en avez une centaine à lire.
Ouais, il y en a un paquet. Puis j'ai un ami qui est un des grands spécialistes de Simenon. Et par exemple, lisez Le Train et regardez le film qui en a été fait. Et voyez le gap, l'énorme chose qu'il y a entre les deux. Oui, le fossé. Entre les deux, parce que c'est une écriture, il ne ressemble qu'à lui.
Bon, donc, quand on aime la culture, on aime le théâtre, la poésie, le cinéma et la littérature.
Oui.
Voilà, excellente conclusion à notre émission. Voilà.
Hop là,
c'était l'épisode numéro 136, Béatrice Viard-Rossignol, le maillon fort. Et alors toujours une question avant la fin. Dites-moi Béatrice, êtes-vous allée de l'autre côté de la scène ? Est-ce que vous êtes montée sur scène pour jouer ou est-ce que vous avez fait une mise en scène ? Vous n'avez pas eu envie un jour de monter Hamlet ?
Non, Hamlet aux fines herbes peut-être, mais bon. Non. Chacun son truc.
Ah oui.
Moi, je suis après. La seule chose que j'aime beaucoup faire, c'est lire à haute voix.
Oui.
Voilà.
Ah bah voilà.
That's all.
Moi, quand je prendrai ma retraite de Radio Judaïca Strasbourg, je monterai Hamlet. Bon, il faut que je trouve des copains qui soient d'accord pour jouer sous ma terrible direction. Mais voilà. C'était, vous l'avez bien connu, tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi. À la technique Thomas Marinelli, et mon nom est toc 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 toc, le rideau se lève, Ambroise Perrin.